Merci Dimitra. Je passe maintenant la parole à Irène Dupton, qui est psychanalyste à Paris et qui va parler de... C'est le symptôme qui vient tout troubler.
C'est le symptôme trouble tout. La traduction, c'est plutôt dans ce sens.
C'est bien.
Pas de problème. Alors. Le titre de mon intervention se réfère à un propos de Freud, issu d'un texte de 1926, Inhibition, symptômes, angoisse, sur lequel je me suis en partie appuyée pour faire ce travail. Le terme de symptôme, provenant originellement du champ médical, est repris par Freud, neuropsychiatre de formation, dans son enseignement de la psychanalyse, avec une autre portée. Sur ce dernier point, Lacan y voit plutôt un lien avec les thèses de Marx sur le capitalisme et le prolétaire qu'avec Hippocrate et la médecine. Le terme de trouble n'est pas un concept psychanalytique. Cependant, la psychanalyse s'y est intéressée, particulièrement à partir des troubles de la perception. Ceux-ci ont largement été étudiés par la psychiatrie française, surtout pour tenter de comprendre les troubles hallucinatoires. Toutefois, par son élaboration de l'inconscient, notamment dans la Traumdeutung, Freud se distingue des thèses psychophysiologiques de la psychiatrie sur ces troubles, apportant une conception nouvelle des phénomènes perceptifs. Selon Lacan, ce qui fausse la perception, c'est la conscience, indiquant ainsi l'implication du sujet dans la perception. Par exemple, il ne conçoit pas le regard comme un organe de la vue, ni comme corrélatif du monde de l'objectivité, mais relatif au sujet qui se soutient dans une fonction de désir. Je vais citer, c'est dans les quatre concepts. Je reviendrai sur cette conception des troubles perceptifs à partir d'une vignette clinique. Selon d'autres critères auxquels se réfère la psychiatrie d'aujourd'hui, les troubles entrent dans une classification internationale, surtout nord-américaine, se basant sur un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, qui en est à sa 5e édition. Il s'agit d'un répertoire mettant en série toutes sortes de troubles, anxieux, dépressifs, de la personnalité, troubles obsessionnels compulsifs, du spectre de la schizophrénie, bipolaire, etc. Ce référencement s'accompagne d'une terminologie qui marque un changement sensible des pratiques en psychiatrie, voire au-delà, reflet d'une évolution de notre société. En effet, il n'est pas rare que les psychoses, mais aussi bien les névroses, soient aujourd'hui traitées sous l'angle de troubles et de dysfonctionnements qu'il s'agit de rééduquer. Les formations des personnels de santé ont pris de nouvelles orientations, tenant compte de cette évolution des pratiques. Néanmoins, cette tendance peut parfois être infléchie, notamment sur le terrain professionnel, si d'autres discours sont proposés. Récemment, lors d'un stage du Collège de clinique psychanalytique de Paris, Carmando Côté et moi avons animé, sous l'intitulé « Transfert et institution », nous avons pu constater la variété de lieux institutionnels où les intervenants collègues de notre école exercent et comment chacun, à partir de son expérience de la psychanalyse, tentait de dégager ce qu'il en était de la parole d'un sujet auprès de la population à laquelle il a affaire. Le mode de classification internationale des maladies incluant pour la première fois les troubles mentaux est né à la fin des années 40, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Association américaine de psychiatrie. À son propos, Claude Léger souligne dans un texte intitulé « Complément à psychiatrie et psychanalyse des années de malentendus » que vous pouvez trouver dans la revue du champ lacanien numéro 19. Je le cite, « L'introduction de ces nomenclatures a bouleversé le paysage de la psychiatrie en se prétendant athéorique. C'est-à-dire qu'en refusant de rattacher les troubles à des syndromes, Elles évacuaient l'abord psychopathologique des maladies mentales, à commencer par les conceptions freudiennes. Il montre également comment cette démarche normative relève de critères médico-économiques en vue d'une santé selon le meilleur rapport qualité-prix, afin d'accéder au bien-être, et comment Lacan œuvra constamment à l'inverse du DSM, dans son principe même, à savoir la mise en statistique et l'anonymat des troubles psychiques. Ces remarques de Claude Léger nous permettent de mieux saisir les conséquences des enjeux économiques de notre société sur la politique de santé publique, dont la psychiatrie, et voire les thérapies en général. Dans ce domaine, donc de la psychiatrie, et selon le choix de la gouvernance du DSM comme manuel de référence, cela se traduit par une nouvelle conception des patients qui sont, en quelque sorte, vidés de leur substance symptomatique, pour n'apparaître plus que comme troubles ou dysfonctionnement. Les troubles psychiques sont dissociés de ce qui fait leur essence même, les symptômes. On se désintéresse de ceci et de l'élaboration subjective que chacun peut en faire pour privilégier un abord comportementaliste de la personne et une norme de l'individu. Le savoir élaboré par le patient est secondaire au regard de celui préétabli par le manuel de classification. La prise de parole de l'intéressé n'est pas au cœur du traitement et celui-ci se veut souvent de courte durée. A l'inverse, comme le souligne Claude Léger, la psychiatrie classique et la psychanalyse avaient en commun un intérêt pour la clinique des symptômes permettant de construire un savoir théorique, même si à bien des égards, notamment dans la prise en compte d'un savoir inconscient pour la psychanalyse, leurs orientations conceptuelles différaient. Or, la psychiatrie d'aujourd'hui, qui se réclame du DSM, se veut athéorique et se caractérise par l'anonymat des troubles psychiques. Ces derniers points me semblent importants à relever concernant le thème de notre soirée. Je vais essayer de m'en expliquer. Bien qu'on le lui reprochât pour une question de confidentialité, Freud a publié des analyses de cas que l'on retrouve dans son recueil des cinq psychanalyses. En ceci, il s'inscrit dans un genre, la monographie, pratiquée par un certain courant d'aliénistes, comme Karl Jaspers, Ernst Kretschmer, Robert Gaup, entre autres. Chacun des cas de Freud porte un intitulé qui le singularise nommément. Extrait de l'histoire d'une névrose infantile, l'homme au loup. Analyse d'une phobie, le petit Hans. Remarque sur un cas de névrose obsessionnelle, l'homme au rat. Fragment d'une analyse hystérique, Dora. Ne signa-t-il pas ainsi que ce qui fait symptôme pour chacun est un trait distinctif? La thèse de doctorat en médecine de Lacan aussi témoigne de son intérêt pour la monographie, en ce qu'elle inclut le cas d'une de ses patientes qu'il nommera Aimée. Pour lui, ce n'est pas un prototype, mais une description concrète, ni une synthèse descriptive qui, par besoin de généralité, aura été dépouillée de ses traits spécifiques. En opposition avec le courant athéorique mentionné précédemment, ces auteurs démontrent une articulation nécessaire entre théorie et clinique, une clinique du détail, permettant de préciser les coordonnées symptomatiques de chaque sujet. Rien de ce que je vous dis ne vient d'ailleurs que de ma pratique, affirmera Lacan à cet égard, lors d'une séance de son séminaire RSI. Bien qu'il se soit également inspiré d'écrits qui ne furent pas ceux de ses analysants, en l'occurrence ceux de l'écrivain James Joyce, auquel il consacra tout un séminaire sur le symptôme, dont il reprendra l'ancienne écriture, celle de symptôme. Si la psychanalyse est foncièrement différente des types de thérapies qui ont cours aujourd'hui, ce qui n'est pas vraiment nouveau, d'ailleurs, depuis sa naissance, elle a toujours fait débat, quoi qu'on la voudrait hors débat. Une question se pose. Qu'apporte-t-elle de particulier au traitement des symptômes dans la cure des névroses et que désigne le symptôme chez ces sujets? Selon Freud, et pour reprendre le titre de cette contribution, le symptôme trouble tout. Alors en allemand, c'est die Störung geht von Symptom aus. Le trouble, c'est-à-dire perturbation, dérangement, désordre, vient du symptôme. Nous avons ici une nouvelle occurrence de ces deux termes en ce qu'ils fonctionnent ensemble, activement si je puis dire. Et contrairement aux diverses thérapies actuelles visant à obtenir un moi sain pour tous, la psychanalyse se spécifie en ce qu'elle propose de mettre l'accent sur la part troublante du symptôme et non de supprimer celui-ci. Car quand bien même on le voudrait, ce serait fort vain. Donc, non de supprimer celui-ci, mais de l'élaborer, puis de s'y appuyer, voire d'en faire un partenaire, thèse développée par Lacan concernant la fin de l'analyse. Dans son texte « Inhibition, symptômes et angoisse », Freud insiste sur le caractère inéliminable du symptôme chez le névrosé, qui est là une fois pour toutes, explique comment le moi doit s'adapter à ce fragment du monde intérieur qui lui est étranger, de la même manière qu'il le fait pour le monde extérieur réel. Selon lui, il est vraiment très rare que le processus de l'enquistement d'un corps étranger donne quelque chose d'analogue. Il ajoute que le symptôme est un substitut et un rejeton de la motion refoulée, poursuivant le rôle de celle-ci et renouvelant sans trêve son exigence de satisfaction, forçant ainsi le moi à donner le signal de déplaisir et à se mettre en état de défense. Pour Freud, une analyse commence par une mise en forme des symptômes. Elle ne consiste pas en une simple écoute des plaintes de l'analysant, mais requiert la mise en place d'un dispositif particulier, celui de transfert. Dans le séminaire L'angoisse, Lacan nous donne une indication sur cette mise en forme des symptômes qui pourra amener à l'instauration du transfert. Je le cite. Le névrosé ne donnera pas son angoisse. Toute la chaîne de l'analyse, consiste en ceci, qu'au moins il en donne l'équivalent, qu'il commence à donner un peu de son symptôme. Il vous fait une offre, en somme fallacieuse, eh bien, on l'accepte. Ce un peu de son symptôme n'indique-t-il pas la résistance qui accompagne le transfert dans une analyse et la difficulté de parler de ses symptômes? Certains peuvent être passés sous silence ou énoncés difficilement. Je vous propose d'interroger cet aspect du symptôme à partir d'un cas de ma pratique. Alors c'est très court, hein. Il s'agit, et ça a à voir donc avec ce que je disais tout à l'heure sur les troubles de la perception. Il s'agit d'un homme qui souffre d'un symptôme qu'il a mis du temps à livrer en analyse, une sensation de vertige. Et pourtant, ce symptôme est tout à fait dérangeant. Il a le souvenir incertain d'une première manifestation dans l'enfance et l'associe à une autre scène de la même période, celle de la chute d'un enfant qu'il a provoqué involontairement. Il a eu très peur, car celui-ci fut blessé près de l'œil. Il précise que le vertige fut ressenti une première fois en présence de cet enfant. Depuis, il peut l'éprouver, mais ce n'est pas systématique, lorsque son regard se porte vers le bas, mais aussi vers le haut, et qu'il est face au vide. Parfois, à la suite d'une situation qui aurait pu susciter un vertige, il s'étonne de ne pas l'avoir eu, ce qui a pour effet de le déclencher éventuellement. Il lui arrive aussi de se demander s'il pourrait le provoquer, et s'il se manifeste, de le regretter, car il s'aperçoit alors qu'il n'en a pas la maîtrise, et cela l'angoisse. Ici, le symptôme vertige s'exprime par un trouble de la perception lié au regard. Les coordonnées qu'en donne l'analysant permettent de saisir qu'il masque une autre scène. Il y a donc déplacement. Une autre scène où se joue un drame mettant en cause la responsabilité du sujet, une faute qu'il a commise avec, sur un compagnon de jeu. Là, il y a donc une substitution. donc entre lui et l'enfant. La chute et la blessure près de l'œil de celui-ci marquent un moment de rupture, ce qui échappe au sujet et qui fait trou, coupure dans le corps, parce qu'il est blessé. Il me semble que le signifiant vertige condense en un symptôme ces différents éléments. Ce qui est frappant, c'est comment la présence de l'autre enfant est requise au moment de la première manifestation du symptôme. Parce que c'était bien après que cette scène avec de la chute ait eu lieu. Ce n'était pas immédiatement après, hein, qu'il s'est retrouvé ensuite avoir le premier vertige en présence de cet enfant. Ne peut-on y voir une occurrence du symptôme comme partenaire, mais aussi que le par-lettre est toujours autre avec un grand A, à côté, décalé, voire étranger à lui-même, comme le notait Freud, en tant que chute, et lui échappe. Et je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas une corrélation entre le signifiant chute, alors C-H-U-T, tiré E, et le fait que l'analysant ait longtemps gardé le silence sur ce symptôme. En guise de conclusion, comme nous avons pu le constater, loin d'être un dysfonctionnement, le symptôme apparaît plutôt comme un fonctionnement du par-lettre, qui l'oriente et lui échappe, qui se joue à côté, étrangement familier, pensez à donc l'Unheimlich, dont on peut attraper un bout, un peu, de sa voix, un peu, dans une analyse. Alors un peu, donc par rapport à ce que disait Lacan, ce qu'on peut avoir, un peu de symptômes qu'on peut attraper en analyse, un peu, que j'écris aussi P-E-U-T, signifie que l'analyse ouvre sur un champ du possible, mais aussi qu'il y a de l'indicible. Un impossible à dire dont il faut tenir compte. Si du symptôme on ne se débarrasse pas, peut-être peut-on, par une analyse, en atténuer ses effets de jouissance. Voilà.